Rebecca, maintenant tu reçois Sandrine Turgis, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, en effet, c'est la journée internationale des droits de l'homme.
Et à cette occasion, nous accueillons Sandrine Turgis, maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Rennes. Alors, il y a 73 ans, jour pour jour, le 10 novembre 1948, à Paris, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on le rappelle, l'ONU, c'est une institution qui a été fondée en 1945, au lendemain donc, de la Seconde Guerre mondiale. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a été adoptée par 48 des États, sur les 58 États membres à cette époque-là. C'est un des textes les plus traduits au monde, plus de 500 langues à ce jour. Et il est constitué donc d'un préambule et de 30 articles à peu près, 30 articles tout court en fait, et le texte énonce les droits fondamentaux de l'humain. Alors est-ce que vous voulez bien peut-être nous en dire un peu les grandes lignes, voilà, les droits qui sont énoncés dans ce texte ?
Bonjour, merci. Oui, donc ce texte qui a donc été adopté en 1948 est un texte qui, si on reprend la présentation de René Cassin, qui est l'un des rédacteurs de cette déclaration, peut se présenter sous trois formats, trois colonnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des droits qu'on va peut-être qualifier de première génération, c'est-à-dire les droits de l'individu. On a ensuite des droits de l'individu dans la relation avec les autres, les entités, le droit d'association par exemple. On a ensuite ce qu'il appelle les libertés spirituelles, liberté de religion par exemple, liberté de conscience. Et puis toute une grande nouveauté, on voit apparaître une quatrième colonne, un quatrième corpus, qui sont les droits économiques, sociaux et culturels. Et ça, c'est un élément très important de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et Cassin explique que les quatre colonnes sont de même force, sinon le temple s'écroule. Et donc ces quatrièmes, ces libertés économiques, sociales, sont aussi importantes que les autres.
D'accord. Donc tous les droits sont vraiment au même niveau pour le coup.
C'est ça.
Ok. Et en quoi ce texte se démarque en fait par rapport aux autres textes fondateurs du droit humain qui ont pu être présents dans certains pays? Je pense notamment au Bill of Rights en Angleterre en 1689, si je ne me trompe pas. Et notamment en France en 1789, cette fois, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, qu'est-ce qui démarque la DUDH par rapport à ces autres textes?
Alors, l'apport de la DUDH ici, c'est que c'est un texte justement adopté au niveau international, qui s'appuie aussi sur des textes préexistants au niveau national. Mais là, on a, comme vous le rappeliez, au sein de l'ONU, tous ces États qui s'engagent, il y a eu simplement 8 abstentions, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un État qui a osé voter contre en 1948 contre cette DUDH, et donc on a un texte adopté au niveau super étatique, ou en tout cas au niveau international, et qui pourra être invoqué par les individus au plan international. Alors, invoqué par les individus au plan international, c'est peut-être votre question après, c'est la valeur de cette DUDH, voilà, je vous laisse poser la question.
Justement, j'allais venir, quelle est sa portée, sa vocation peut-être en termes juridiques?
Alors, au niveau de l'adoption, lorsqu'elle est adoptée, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte non contraignant. C'est l'Assemblée générale des Nations unies qui l'adopte sous forme de résolution. Donc les résolutions de l'Assemblée générale sont non contraignantes. Alors, un point intéressant, vous l'avez dit, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de résolutions, l'Assemblée générale était présente à Paris, donc c'est aussi ça a une valeur symbolique pour nous. Et la DUDH n'est qu'un texte donc non déclaratoire. Mais depuis, elle a servi de base à l'adoption d'un certain nombre de traités internationaux, et puis elle a été reprise dans plus d'une centaine de constitutions, à la fois explicitement ou parfois plus implicitement. Donc c'est la matrice en fait des différents droits qui sont inscrits dans ces textes internationaux au niveau régional ou subrégional.
Et quel a été son impact sur le droit humain en tant que discipline? J'imagine que ça a apporté de nouvelles perspectives.
Alors, nouvelles perspectives avec justement ce quatrième pilier, l'apparition en droit international de ce qu'on a appelé à l'époque les droits de la deuxième génération, droits économiques, sociaux et culturels, même si le classement en génération des droits de l'homme pose un problème aussi, parce que plus on catégorise, plus il y a un risque aussi que les États s'engouffrent dans les distinctions en disant que finalement, ils n'ont pas assez d'argent pour mettre en œuvre les droits de la deuxième génération ou préfèrent investir dans les droits de la deuxième génération et pas sur les droits civils et politiques de la première. Donc ça, c'est un apport, l'apparition de ces droits au niveau international. Et puis, c'est aussi un instrument qu'on peut brandir au niveau international, au niveau national. C'est une référence partagée.
À l'époque, on l'a dit, donc ça a été accepté par 48 États membres, et c'était déjà il y a pas mal de temps. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est aujourd'hui peut-être incomplète, qu'il y a certaines problématiques du monde actuel, je pense au climat, la bioéthique, la migration, qui sont peut-être forcément omises? Comment remédier à ça?
Alors, c'est toujours la difficulté de savoir si vous évoquez le Bill of Rights ou la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Est-ce qu'il faut garder les textes tels qu'ils sont à l'origine ou est-ce qu'on se dit qu'il y a de nouvelles problématiques, telles que les problématiques du numérique, par exemple, nos droits dans le monde cyber ou en lien avec nos libertés numériques. Je suis d'avis qu'il faut garder les textes, ces textes pour le moment tels qu'ils sont. Et sinon, on va se retrouver avec un risque. Plus on rédige aussi des textes ou des nouveaux textes, des nouveaux articles, plus on a éventuellement un risque, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais d'obsolescence du texte. Alors qu'on a l'article 19 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit déjà la liberté d'expression. Et elle peut, et elle sert aussi, cette liberté d'expression, on peut s'en prévaloir dans le monde numérique, à l'ère numérique. Donc ça me semble suffire sur ce niveau-là, par exemple, pour cette illustration-là.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des textes peut-être complémentaires qui ont quand même été érigés ensuite ?
Alors, de cette ampleur, non.
Ouais.
Par contre, la DUDH, elle a servi à rédiger deux pactes, notamment la suite de la DUDH en 1948, c'est de passer d'un texte non contraignant vers un texte contraignant. Et on pouvait sembler que ça puisse être fait dans la foulée de 1948, sauf que là, on était déjà avec le début de la guerre froide. Ça a été très compliqué, déjà que pour adopter la DUDH, il y avait déjà eu des compromis et puis des frictions. Et donc, il a fallu attendre 1966 pour que les deux pactes soient adoptés, un pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et après, on a une déclinaison, si on reste au niveau onusien, sur la convention qui protège les droits des femmes, par exemple, convention des droits de l'enfant, qui étoffe finalement, qui part de la base de la DUDH et puis qui étoffe à la fois en termes de droits, ce qui correspond peut-être à votre problématique de tout à l'heure, mais aussi qui étoffe les obligations des États en expliquant clairement comment on peut faire pour promouvoir et défendre les droits de la DUDH en lien avec, par exemple, la problématique des droits de l'enfant.
Alors, on l'a dit, aujourd'hui, ça fait 73 ans qu'elle a été adoptée. Alors, est-ce qu'on peut peut-être analyser l'impact qu'elle a eu aujourd'hui, on sait que les droits humains ne sont pas forcément respectés partout. Il y a encore des problématiques de torture, d'esclavage dans le monde. On peut citer aussi le camp Guantanamo. Enfin, il y a plein d'exemples qui viennent un peu rentrer en contradiction avec cette DUDH. Est-ce que malgré tout, ça a permis une avancée ?
La DUDH a permis à la fois le développement donc, de ces instruments de protection et puis elle sert aussi de base, par exemple, à un contrôle qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup au niveau onusien. Au niveau onusien, vous avez des contrôles qui sont effectués. Je parlais de la Convention des droits de l'enfant, on a un comité des droits de l'enfant. Mais il y a aussi un conseil des droits de l'homme au niveau de l'ONU et qui se base notamment sur la DUDH. Ça veut dire qu'il peut imposer les droits de la DUDH à tous les États puisqu'il n'y a pas besoin de l'avoir accepté puisque par contre, principe, elle n'est pas contraignante. Donc là, vous avez ce contrôle qui est effectué par ce Conseil des droits de l'homme et qui examine le respect de toutes les dispositions de la DUDH à l'égard de tous les États partis de l'ONU. Donc ça, c'est aussi une avancée en termes, pas simplement d'énoncer les droits, mais de les faire respecter et de faire un contrôle avec toutes les limites de ce contrôle du Conseil des droits de l'homme, ce qui ferait l'objet d'une autre émission, mais ça existe quand même.
Vous l'avez cité tout à l'heure, René Cassin, donc il me semble que c'est lui qui a un peu imposé ce terme d'universel et non pas d'international ou de mondial comme on aurait pu le faire. Du coup, je me demandais comment on peut porter un texte à vocation universelle dans un monde caractérisé par des systèmes d'oppression, de hiérarchie diverses et variées. Enfin, c'est pas un peu une ambition démesurée, cette universalité ?
L'ambition, elle était inscrite dans le préambule de la DUDH, puisque c'était présenté comme un idéal commun à atteindre par les peuples et les nations. Il y a quand même eu des belles concrétisations sur le fondement de la DUDH. Donc, je parlais des textes onusiens, mais allons regarder, par exemple, le texte régional le plus récent qui a été adopté en matière de protection des droits de l'homme. C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a été adoptée en 1981. Et dans son préambule, elle fait référence à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors après, là, donc du coup, au sein de l'Organisation des États africains, Union africaine, j'imagine, on a un texte qui décline, en fait, ces droits de l'homme et qui a été adopté par un certain nombre d'États. Il y a un mécanisme contraignant possible devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors là, c'est plus difficile. Il y a moins d'États qui ont accepté ce mécanisme contraignant de contrôle. Mais on a un texte qui le décline au niveau régional, là aussi, par exemple.
Et la DUDH, elle est contestée aujourd'hui, j'imagine, sur différents plans. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces contestations ?
Alors, la contestation à l'égard de la DUDH ne porte pas, enfin, ne valorise pas justement la protection des droits de l'homme et elle semble parfois fondée sur des incompréhensions de l'existant parce qu'il y a une critique sur les valeurs occidentales qui seraient dans la DUDH, une pure création de l'Occident. Alors que quand on regarde la création de la DUDH, vous aviez à la tête de la Commission droits de l'homme Eleanor Roosevelt. Donc on avait aussi, parce qu'une autre critique, c'était la question des femmes aussi, lien avec cette question. Et donc on a Eleanor Roosevelt. Et puis dans le comité de rédaction, on a un représentant de la Chine qui est présent et qui explique aussi comment on peut concilier les valeurs Confucius avec les droits de l'homme. Et on a aussi un représentant du Liban, par exemple, qui sont présents. Donc il y a dans la création même de la DUDH la volonté de concilier peut-être des inconciliables avec la vision libérale, le marxisme, Confucius, d'autres versions. Voilà. Donc il y avait une large représentation, enfin, au moins tentée au départ, et une réalisation d'un texte qui dépasse les différences et qui doit être défendu depuis 48 pardon, jusqu'à aujourd'hui. C'est un texte justement universel.
D'accord. Et on a commencé à le mentionner un petit peu, la question des femmes, puisque en France, on utilise le terme de droit de l'homme et non pas droit de l'humain. Alors pourquoi avoir choisi ce terme-là ?
Alors, là, vous faites certainement référence à une volonté portée notamment par un certain nombre d'ONG et d'associations de changer la terminologie qu'on utilise, celle de droits de l'homme, de façon générale, l'expression générale par droits humains. Alors, cette revendication, elle a été notamment forte en 98, puisqu'en 98, on avait les 50 ans de la DUDH. Et ça a conduit la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui, pour l'anecdote, a elle-même été créée par René Cazin. Donc voilà, et là, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 98 a rendu un avis dans lequel elle expliquait que si la terminologie n'est pas neutre, elle estimait qu'il fallait garder le terme de droits de l'homme parce que pour elle, il était assez englobant. On a eu une autre prise de décision, enfin position, en 2018, hein, le Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes, qui est arrivé à la position inverse en considérant que droit de l'homme, même avec un H majuscule, alors qu'on ne va justement pas entendre à la radio, n'est pas assez englobant. Et lui, il conseille une modification des termes et d'utiliser l'expression de droits humains. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une modification, il me semble, dans les publications au niveau onusien, au niveau de l'ONU. C'est-à-dire que le terme droits humains est de plus en plus utilisé. Donc on voit peut-être que cette expression arrivera par les canaux en fait, onusiens. Mais à l'autre bout de l'échelle, pour vous donner une illustration, l'Union européenne a adopté un nouveau mécanisme pour lutter contre les violations des droits de l'homme, un régime mondial de sanctions par rapport aux droits de l'homme, adopté là, et qui a utilisé à nouveau cette expression de droits de l'homme. Donc on voit, la question n'est pas encore tranchée, l'expression droits de l'homme continue à être utilisée.
Eh bien, merci beaucoup, Sandrine Turgis, d'être passée sur Scilab en l'honneur de cette journée internationale des droits de l'homme. Et puis, à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Merci, Sandrine Turgis. Merci, Rebecca.